Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? What's that spell?
One, two, three, four.
I thought he'd never leave.
Well, I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. I'm a little dinosaur. But I'm planning to go away. Now I am real old, don't you know? Born 10 billion years ago. But they don't love me. The children upon their lawn will wake up and wonder where I've gone. And the flies that buzz around where I now be, they're all gonna have to get along without me. They'll say,
where's the little dinosaur?
I didn't think
where's
he'd really
the
go.
Dinosaur?
Where's that
the little dinosaur? He must have
please
gone
don't go away.
Away.
Come back. You know I'm back to stay. Cause I'm just your little dinosaur. And I could never really go.
No.
Never. Et bonsoir, vous écoutez les bébés dinosaures? On s'est écouté le jingle d'intro presque en entier, le temps que je bricole et que je bidouille dans le studio. Et donc c'est les bébés dinos, votre émission de Rock 70 sur Canal Sud 92.2, tous les dimanches de 21h30 jusqu'à 23h. Ce soir, Tommy Boy est en vadrouille et c'est moi qui tiens les patines, on va pousser les disques tranquillement. Et la semaine prochaine, le duo terrible se reforme. Et donc ce soir, alors Tommy Boy s'est laissé aller, bien sûr, quand il a fait son émission tout seul la semaine dernière, Wishbone Ash, Deep Purple, enfin bon. Et moi, eh ben, vous aurez droit à du Kiss, des choses plus ou moins respectables, des choses qui tournent autour de Kim Foley aussi, l'infâme Kim Foley. Et puis les rubriques habituelles quand même, rassurez-vous. On terminera avec la rubrique fromage de chèvre, évidemment, sinon Tommy Boy me fera les gros yeux la semaine prochaine. Donc on démarre avec un morceau, ma foi, qui est un classique quand même des 70s, mais pas dans sa version originale. Le morceau, c'est « Wanna Be Where the Boys Are », des Runaways, mais c'est pas les Runaways, là. Ça date de 78.
I wanna live how the boys are.
Boys Arms, c'était la version de Venus and the Razor Blades, un autre groupe sous la houlette de Kim Foley. Après les Runaways, donc ça c'est un morceau de Runaways. Et Kim Foley, à la fin des Runaways, vers 77, a voulu refaire un peu le même coup et monter de toutes pièces un groupe avec des filles très jeunes. Et ça deviendra Venus and the Razor Blades, avec quand même un mec au moins à la batterie. Et puis après un line-up avec quelques changements. Enfin, il y avait deux des membres qui avaient 17 et 14 ans. Par contre, ça n'a pas eu tout à fait le même succès que les Runaways. Et c'est l'album qui est sorti de Venus and the Razor Blades, donc en 78, est sorti alors que le groupe était déjà dissous. Ça n'a pas duré très longtemps non plus. Ils ont fait quelques tournées, ils ont sorti quelques 45 tours. Ils ont eu un petit following, mais c'était pas le succès énorme. Et l'album donc est sorti après la dissolution du groupe, et quand même, je me souviens pas de l'avoir jamais écouté en entier, à vrai dire. Quand même, c'est plutôt pas mal. Mais lui, il présentait ça qu'il me foulait comme une espèce de groupe punk, en fait. Pour lui, les Runaways, c'était déjà du punk. Bon. En fait, c'est plutôt un groupe de hard rock pop, disons. Mais avec des bons morceaux, quand même, il faut bien le dire. On écoutera peut-être un autre tout à l'heure. Un son, par contre, qui est un peu vieilli, qui est pas trop péchu. Le batteur de Venus and the Razor Blades, là, Nicky Alexander, qui se faisait appeler Nicky Beat. Alors lui, c'est quand même un mec incroyable, parce qu'il a joué, d'après Discog, avec les Germs, qui eux, pour le coup, étaient vrais punk, avec les Joneses, un peu plus tard, les LA Guns, bon ça... Mais il aurait joué avec les Bags aussi, avec les Cramps, les Dickies, les Weirdos, enfin bref, tout un tas de groupes tout à fait prestigieux. Alors sans doute, toujours un peu dans le rôle de second couteau, quoi, ou de remplacement, mais quand même, c'est un beau palmarès. Donc on réécoutera peut-être tout à l'heure Venus and the Razor Blades, et on va continuer avec mon petit péché mignon à moi, c'est le groupe Kiss, bien sûr. Bon, que dire de plus, rien. Mais Kiss a croisé la route de Kim Foley, sur l'album Destroyer. Alors déjà, ils avaient repris Kings of the Nighttime World, qui est un morceau des Hollywood Stars, autre groupe managé, drivé et construit de toutes pièces par Kim Foley. Donc, Kim Foley leur avait laissé l'autorisation d'utiliser le morceau, un petit peu transformé d'ailleurs. Mais il y a un autre morceau auquel Kim Foley a participé, semble-t-il, sur ce disque, c'est Do You Love Me. Alors je ne sais pas exactement comment, en détail, mais en tout cas, Do You Love Me était en démo quand ils ont préparé l'album avec le producteur Bob Ezrin. Donc il l'avait déjà écrit plus ou moins, et donc ils auraient croisé Kim Foley à un moment ou à un autre, et Kim Foley aurait collaboré avec eux, il est crédité d'ailleurs, pour écrire ce Do You Love Me, qui est un des grands morceaux de Kiss quand même, il faut bien l'avouer. Alors c'est sorti sur Destroyer à l'origine en 76, ça a été repris au moins 14 fois selon le site Second Hand Song. La reprise de Nirvana, bien sûr, enfin Nirvana leur tout début, hein, avant qu'ils soient des superstars. Girls School a repris Do You Love Me. Tout à l'heure, on s'écoutera une autre version par un autre groupe qu'on aime bien, au Bébé Dino. Mais là, on va s'écouter, alors non pas l'original en studio, on reviendra sur l'album Destroyer tout à l'heure, mais une version live de Do You Love Me est tirée de ce qu'on a appelé le Lost Alive 2. Alors, c'est le deuxième album de Kiss, le deuxième album live de Kiss, s'appelait Kiss Alive 2. Le premier s'appelait Kiss Alive, c'est logique. Et ces bandes tournent un peu en pirate sous le nom de Lost Alive 2. En fait, ils n'ont rien à voir, ces morceaux, avec l'album live Kiss Alive 2. Donc c'est même pas enregistré lors de la même tournée, en fait. C'était enregistré un petit peu plus tôt, c'était en 77, semble-t-il, au Budokan notamment. Lors d'une tournée japonaise, il y a eu des enregistrements, mais quand même fait avec une certaine qualité. Je crois qu'Eddie Kramer était dans le coup. Peut-être pour préparer un live qui ne sortira que plus tard, donc. Et c'est ces bandes-là qui tournent sous le nom de The Lost Alive 2. C'est plus tard, que sur une tournée suivante, qu'ils enregistreront les morceaux qu'on retrouve sur le véritable album Kiss Alive 2. Bref, tout le monde s'en fout. On va s'écouter Do You Love Me, une version live, qui tourne, qu'on peut trouver par-ci par-là, ou en vidéo sur YouTube, et qui est plutôt une version, ma foi, assez fumante de Do You Love Me. C'est Kiss, donc, en 77, live au Japon. We'll be right back. Hop là, c'était Do You Love Me, donc version live au Budokan en 77, et qu'on retrouve sur ce pirate, ce Lost Live 2. Enfin, c'est des enregistrements qui circulent sous différents noms en fait, hein, à droite à gauche. Bon, on va continuer avec le live et avec un autre registre. Là, on part en Grande-Bretagne avec une association qui avait déjà plus ou moins eu lieu en 79 et qu'on retrouve là en 84. C'est les Deviants avec Wayne Kramer. Alors, ce qu'on a déjà passé il n'y a pas très très longtemps, c'était les Pink Fairies avec Wayne Kramer, live au Dingwalls en 79. Il y a eu un enregistrement plutôt pas mal avec donc Wayne Kramer, qui était le guitariste du MC5, Larry Wallis à la guitare, il y avait George Butler à la batterie et Andy Colquhoun, si je me souviens bien. Et là, c'était sous le nom donc, de The Pink Fairies and Wayne Kramer, ou l'inverse, Wayne Kramer and The Pink Fairies. Voilà, c'est un album live donc, qui est paru bien après l'enregistrement. Hein. Ça a été enregistré en 79, mais c'est paru bien plus tard. Et bien, il existe aussi donc, cet album qui s'appelle Human Garbage, qui a été enregistré 5 ans plus tard, donc en 84, pardon, pareil au Dingwalls, ça doit être à Londres. Mais cette fois, c'est crédité à Wayne Kramer et The Deviants. On retrouve quand même Larry Wallis, on retrouve George Butler à la batterie. En plus, il y a Mick Farren et Duncan Sanderson. Alors, c'est vrai que c'est un peu le line-up des Deviants, mais on sait que les Deviants et les Pink Fairies étaient deux groupes, disons, très liés. Enfin, les Pink Fairies sont les successeurs, le groupe qui a suivi les Deviants avec une bonne partie des mêmes membres. Donc, ce disque-là, je ne le connaissais pas. Il fait partie des nombreux disques que notre copine Marie nous a offert, Tommy Boy et moi. On la salue encore, on la remercie mille fois. Les disques de son frère, qui en pense bien sûr. Et c'est un disque qui est intéressant. Alors c'est, bon, c'est en 84, hein, c'est un peu tardif. Ils sont tous un peu empâtés. Bon, il n'y a pas la patate énorme du MC5 côté Wayne Kramer ou de ce qu'étaient les Deviants à la fin des années 60. Côté des Britanniques, là, mais quand même, ça reste pas mal. Et on va s'écouter le morceau Screwed Up, qui était un morceau des Deviants, d'ailleurs. On trouve pas grand-chose du MC5, à part une version de Rumbling Rose, mais qui n'est pas chantée par Wayne Kramer, alors que c'était lui qui le chantait à l'origine, qui est chantée par Mick Farren. Donc ça rend pas tout à fait pareil. Mais donc je sais pas si on s'écoutera ça. Mais les autres morceaux sont plutôt des morceaux. Alors il y a une reprise de Zappa et puis sinon c'est des morceaux donc des Deviants. On s'écoute ce Screwed Up enregistré donc en 84 au Dingwalls à Londres avec comme invité Wayne Kramer donc avec les Deviants.
Can't get out the chair. Time operator, ain't no joke. She always gets you there with third stroke. Screwed up, and I turn on TV. Screwed up, and what I see, glorification of getting free. Morgan Fairchild, please hug me. Screwed up, I'm a danger to myself. Screwed up. So broad down, I still grin slightly when there's no one else around.
Les Deviants, avec Wayne Kramer en invité en 84. Et une version de Screwed Up. L'album est sorti bien des années plus tard sous le titre de Human Garbage. Une autre rareté qu'il y avait parmi tous ces disques merveilleux là, que nous a passé Marie. Cheech and Chong, parfois Cheech and Chong. Alors j'avais entendu parler de ces énergumènes, bien sûr, c'est un peu les Freaks Brothers du stand-up. Deux gars qui faisaient des disques gags et du stand-up d'ailleurs, avec des thèmes de sketch autour de la drogue en général. Mais je n'avais jamais écouté un seul de leurs disques. Alors celui-là s'appelle Los Cochinos, ça date de 73. Comment dire, alors bon, les gars se sont rencontrés au Canada, il y avait un des deux qui était canadien et l'autre était un américain qui fuyait la conscription pour pas aller au Vietnam. Ils se sont retrouvés là-bas au Canada et c'est là qu'ils ont commencé à faire des sketchs, du stand-up. Les disques sont venus un petit peu plus tard, mais il y en a eu pas mal. Il y a même eu des films dont certains ont eu un certain succès. Et leur carrière a été relativement longue. Alors après, bon, ils se sont séparés, puis ils se sont remis ensemble. Et je suppose qu'ils ne sont plus tout à fait en activité maintenant, mais il y a encore quelques années, ils refaisaient encore des tournées ou... Je crois qu'ils ont sorti un album dans les années 2000, enfin bref. Bon, à la grande époque, c'était plutôt marrant. Alors après, les sketchs, bon, j'avoue que je comprends pas tout. Hein. Le premier est assez tordant, où on a un agent des stupes qui va dans une école, ou plutôt un collège, je pense, pour raconter les méfaits de la drogue, qui bien sûr se heurte à des enfants, enfin, ou des jeunes. Des jeunes gamins qui en savent beaucoup plus que lui sur la drogue. Alors, il y a des moments très très drôles avec la maîtresse qui essaie de ramener le calme. Mais alors après les autres gags là, j'ai perdu le fil. Et puis hop, tout à coup, en dernier morceau, une chanson, avec des musiciens, une vraie chanson quoi, pas juste un sketch. Alors là, ce qui est étonnant, la chanson est pas mal, hein, ça s'appelle Basketball Jones. Jones, bon, ça c'est une référence aussi à l'addiction en fait, donc ce serait plutôt accro au basket quoi. Bon, c'est l'histoire d'un basketteur, je me suis pas trop attardé sur les paroles à vrai dire. Mais par contre, c'est les musiciens, alors là, ils enregistraient cet album là, avec Lou Adler, un producteur assez réputé, dans un studio dont j'essaie de retrouver le nom sur la pochette, c'était le studio AM Records, quelque part, je sais plus où. Un studio assez réputé. Alors là, apparemment, une partie qui était enregistrée à Montréal, une partie enregistrée à New York, voilà, au Electric Lady, mais aussi au AM Studio à Hollywood. Et c'est là, je crois, au AM Studio, que traînait, en même temps que eux enregistraient, toute une bande de musiciens qui ont fini par les rejoindre pour ce morceau final, donc le seul morceau du disque en fait, hein, le seul moment musical du disque. Et alors parmi les musiciens, attention, alors il y avait George Harrison, Klaus Voormann, Jim Keltner, Nicky Hopkins, Billy Preston, et puis Jim Keltner, et puis Carole King, et puis je sais plus, la chanteuse des Mamas and Papas, comment dire, pas celle qui est un petit peu ronde, là, l'autre. Et puis, bon, je sais plus, enfin, la pochette est illisible, mais j'ai oublié, bien sûr. Mais en fait, il y a tout un tas d'autres choristes, notamment, réputés, et des musiciens. Enfin, ça fait une espèce de all-star band, quoi. Qui, ma foi, alors, n'avaient pas du tout prévu le coup, mais qui traînaient dans les studios, qui étaient, eux, pour leur propre projet, dans d'autres parties du studio, et qui... c'est le producteur Lou Adler qui a fait passer le mot. « Ouais, venez !» On a Cheech and Chong là, qui font une chanson à la con. Là, venez jouer avec lui. Et donc, ils ont improvisé tout ça. Et ça donne le morceau Basketball Jones qu'on va s'écouter de ce pas. C'est un morceau quand même plutôt pas mal, vous allez voir.
Tyrone, what makes you such a great basketball player?
Une petite interview quand même d'un basketteur imaginaire là, en introduction.
Well, that's simple. I got a Basketball Jones.
Your daddy got a Basketball Jones.
A Basketball Jones? What's a Basketball Jones?
Go on and tell him what a Basketball Jones is, Tyrone.
What's a Basketball Jones? That's simple. A basketball Jones is when you love basketball so much, you are like a junkie. Basketball Jones, I got a basketball Jones. Got a basketball Jones, oh baby, ooh. Yes, I'm the victim of a basketball Jones. Ever since I was a little baby, I always be dribbling. In fact, I was the baddest dribbler in the whole neighborhood. Then one day, my mama bought me a basketball, and I love that basketball. I took that basketball with me everywhere I went. That basketball was like a basketball to me. I even put that basketball underneath my pillow. Maybe that's why I can't sleep at night. I need help, ladies and gentlemen. I need someone to stand beside me. I need someone to set a pick for me at the free throw line of life. Someone I can pass to. Someone to hit the open man on to give him go and not end up in the popcorn machine. So cheerleaders, help me out.
Quand même assez épique, faut bien l'avouer. Basketball Jones, donc par Cheech and Chong, sur l'album Los Cochinos en 73. Donc je précise bien quand même que le reste du disque, ce sont des sketchs, hein, des... Alors, parfois avec des bruitages, avec des. Puis bon, c'est très drôle, sauf qu'il faut s'accrocher pour comprendre toutes les vannes quand même. Et je rappelle que sur ce morceau que vous venez d'écouter, bah, il y avait George Harrison à la guitare, Klaus Voormann à la basse, Jim Karsten à la batterie. Jim Keltner aux percussions, Carole King au piano, avec Nicky Hopkins aussi au piano, Billy Preston à l'orgue, et j'ai pas retrouvé le nom de cette choriste qui m'échappe. Oh oui, il y a Michelle Phillips, voilà, c'était elle, la fille des Mamas and Papas, Il y a Darlene Love aussi qui chante sur ce morceau, qui fait la cheerleaders, comme ils disent. Donc, une espèce de super groupe réuni juste pour cet enregistrement de morceaux dans un studio hollywoodien et de manière totalement imprévue, bien sûr. On va changer de registre, repartir avec une rareté aussi qui a été éditée sur un 25 cm. C'est Sly and the Family Stone, c'est en 2013. Donc, gros label a sorti trois raretés, disons, de Sly and the Family Stone. On avait déjà écouté un medley qu'il nous appelait le TV medley, qui fait toute une phase. Il y a que trois titres sur ce maxi 45. Il y a une version de Ailleurs aussi, mais qui est une version mono du 45 tours, qui avait été enregistré en 67. Donc c'était sorti en promo. C'était le premier pressage du 45 tours en promo, il avait été un peu modifié par la suite. Et puis il y a un autre medley qui est live, ce coup-ci, qui était enregistré à l'île de Wight, donc en 70. Alors cela, c'est le medley un peu plus classique, Music Lover et I Want to Take You Higher, avec un retour sur Music Lover à la fin. Mais cette version-là apparemment a été inédite, en tout cas en 2013, lorsqu'est paru ce Maxi 45. Donc Sly and the Family Stone à l'île de Wight en 70.
Don't be Nixon, it don't be old to this cat, it don't be old to me, it means I wanna get along. if you throw the peace sign up and say hi, it'll make us feel good. Wanna take it higher? Yeah. Wanna take it higher?
Medley de l'île de Wight, donc c'était Sly and the Family Stone avec Music Lover et I Want to Take You Higher inséré au milieu. Bon, on va continuer avec un petit classique là ce coup-ci, le groupe auquel on rend hommage depuis Halloween dernier et jusqu'à Halloween prochain, hein, c'est bientôt la fin. C'est Creedence et c'était, on en est à l'album Pendulum, le dernier disque, bon, qui est quand même déjà moins bon que les précédents, mais c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Après, il y a Mardi Gras qui est un album quand même beaucoup moins bon. C'est un petit peu le début de la fin du groupe, disons. Mais il reste quelques bons morceaux. Pagan Baby, bien sûr. Hey Tonight, à la limite. Et puis, Have You Ever Seen the Rain. Morceau très mélancolique qu'on s'écoute de rechef. Creedence.
Coming for some time. When
Creedence, donc Have You Ever Seen the Rain. Sur l'album Pendulum, sorti en 70, le fin 70, hein, parce que le 45 tour Have You Ever Seen the Rain est sorti début 71, je crois, et il a eu beaucoup de succès, notamment au Canada, numéro au Canada, bien classé aux États-Unis aussi. Hey Tonight avait eu du succès, donc c'est un album qui s'est très bien vendu, mais qui était quand même globalement moins abouti que les cinq précédents. C'est ça, c'est le sixième, je crois. Je m'embrouille un peu, mais aussi je crois que c'est ça. Donc, Mardi Gras, je sais pas, on l'évoquera sûrement dans les quelques semaines qui nous restent là sur Creedence, et puis après, on passera à un autre groupe, mais je crois qu'on n'a pas encore décidé lequel. Hein. Va falloir faire un peu de brainstorming là, avec Tommy Boy. Mais on en reparlera. Sinon, j'ai reçu un petit message de Marie, là, dont je parlais justement, qui est chez Claudine ce soir, une copine. Et Claudine a des tas de fanzines sur le rock, dont elle ne sait que faire, me dit Marie. Alors, elle propose que je fasse une annonce pour voir si certains intéressés par des fanzines rock pourraient appeler le numéro de Claudine. Donc, je vais le citer à l'antenne. C'est le 06 26 29 39 10. Je répète, le 06 26 29 39 10. Donc, si vous êtes intéressé par des fanzines rock, vous contactez Claudine et puis vous trouverez peut-être votre bonheur et peut-être des merveilles. Et je salue Marie là, qui, ce soir, en fait, approvisionne largement ma programmation, à vrai dire. Même avec le morceau qui suit, puisqu'on va s'écouter Kim Follet. Bah, Kim Follet, il a toujours eu une réputation très sulfureuse. Et en 2015, sa réputation en a pris quand même un sacré coup lorsque Jackie Fox, qui était la bassiste des Runaways, a révélé qu'elle avait été violée par Kim Follet lors d'une soirée dans un hôtel. Donc elle l'a révélé bien des années plus tard. C'était un peu le... Il n'y a pas encore MeToo, je pense, mais c'était un peu le début de la libération de la parole. Là. Et donc, ça a terni quand même sérieusement l'estime qu'on pouvait avoir pour Kim Follet, qui avait une réputation effectivement de mec assez déjanté. En même temps, on n'est pas trop surpris. Et puis, on peut imaginer que dans ces années 60-70, malheureusement, le cas de Jackie Fox n'était pas isolé. Dans le milieu de la musique, ça devait s'en passer des drames de ce genre, malheureusement, assez couramment. Bon, ce que disait Jackie Fox aussi, c'est que certains membres des Runaways avaient assisté à la scène, et notamment Joan Jett. Et là, il paraît que Joan Jett a réagi peu de temps après en disant « Non, tous ceux qui me connaissent savent que j'aurais jamais laissé passer une chose pareille. Je n'étais pas au courant. » Elle termine avec des mots de sympathie, bien sûr, pour son ancienne collègue, avec qui elle n'était plus du tout en contact depuis très longtemps. Donc, il reste encore un voile un peu obscur sur cette histoire, mais toujours est-il que on va quand même continuer à s'écouter du Kim Follet en se disant que c'était un allumé, mais c'était peut-être aussi un gros connard. Mais il y a eu ces moments de génie bizarre et barré, musicalement en tout cas. Par exemple, sur l'album dont on va s'écouter un extrait, là, Animal God of the Street. Bon, il a eu une production discographique un peu pléthorique, hein, il y a un peu à boire et à manger, mais sa période du début des années 70 est plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal. Alors, si vous entendez un petit bruit bizarre comme ça de temps en temps dans le studio, c'est que à chaque fois je fais tomber la petite lampe rouge qu'il y a sur la platine. Là, il va falloir qu'on la scotche ou qu'on la cloue. Elle tombe tout le temps. Bon, bref. Animal God of the Street, c'est un album inégal, on va dire. Il y a un morceau qui est un plagiat de Born to be Wild, bien une reprise de Rumble, qui est honnête. Il y a un morceau qui s'appelle Hobo Wine, qui est en fait une espèce de reprise ou de parodie de Drinking White Spoody Woody, un vieux truc blues. Il y a des morceaux qui sont pas vraiment marquants et surtout qui ont l'impression, on a l'impression qu'ils sont un peu bâclés, quoi, enfin qui démarrent et puis au moment où ça devient intéressant, ça s'arrête. il paraît que Kim Foley jouait tous les instruments sur ce disque. Alors donc il est crédité comme alors tous les vocaux, tous les instruments, ingénieur, il a fait le mixage, il a arrangé, il a produit. Bon, enfin, il a tout fait quoi. Bon, c'est possible, il y a peut-être un ou deux invités aux instruments, mais bon, peut-être que c'est lui qui a tout fait. Et il y a quand même quelques grands moments, il faut bien avouer. Notamment le morceau final. Alors sur la version d'origine, enfin la version Sky Dog en tout cas, le titre n'est pas listé. Alors, c'est le dernier morceau de la phase B. C'est pourtant sans doute le meilleur. Mais l'album a été réédité il y a quelques années avec une couverture beaucoup plus belle à vrai dire, hein, parce que la couverture Sky Dog est absolument hideuse. Mais il a été réédité, je ne sais pas si c'était pas par Monster, le label espagnol. Et donc le morceau final s'appelle Ain't Got No Transportation. Et ça, bah, c'est du Kim Foley barré, ma foi, d'un bon tonneau, quoi. Enfin, on sent qu'il a, il s'est motivé tout seul dans son studio avec des substances sans doute assez fortes. En tout cas, ça donne un résultat, ma foi, assez barré. Ouais, c'est aussi ce côté-là qu'on aimait bien dans sa musique. Et donc on s'écoute ce Ain't Got No Transportation 74, l'album Animal Code of the Street, c'est Kim Foley. Bon, il n'était pas si speed que ça, hein, ça tombe mieux en 33 tours quand même.
Ain't got no transportation. Take a ride. I ain't got no transportation.
Kim Foley donc en 74 sur son album Animal God of the Street paru sur Skydog à l'époque. Et ben il est temps d'une petite rubrique.
Like a rolling stone, like the FBI.
Hop là, ça c'est pour tout à l'heure. La rubrique Dig It, donc, c'est-à-dire la rubrique qui rend hommage à l'émission Dig It, qui est née en 90 et s'est arrêtée en 2017. Donc, il fait partie du club de 27, qui était drivé par notre ami Gilda, et qui, auquel on a participé avec Tommy Boy, quasiment depuis les tout débuts. Et on a abordé donc cette rubrique sous différents angles, hein, comme je le rappelais il y a quelques temps. On a fait les groupes fétiches de l'émission Dig It, donc c'était une émission d'actualité, garage, punk, power pop, rock'n'roll au sens assez large, avec sa rubrique groove aussi bien sûr, et qui était assez éclectique mais quand même assez orientée sur les nouveautés et sur le garage. Mais où on passait un petit peu de tout. Alors on a vu certains des groupes fétiches de Dig It, certains des premiers tubes, des toutes premières émissions de Dig It, des groupes parfois oubliés aujourd'hui à vrai dire. On a fait aussi les groupes qu'on aurait pu passer à Dig It mais qu'on n'a jamais passé. Parce que on ne devait pas les connaître quoi, à l'époque. Notamment le groupe Les Gangsters, là, ce groupe britannique totalement obscur que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps grâce à mon pote Zeto. Qui faisait un power pop, ma foi, tout à fait réjouissant là, à la fin des années 70. Mais alors ce groupe-là, on aurait pu le passer aussi. Voilà, là, on est dans les 60s, on est quand même un des créneaux de Digit. Et en plus, un morceau qui n'a pas grand-chose à envier, quelque part, au compli Back from the Grave ou ce genre de choses, c'est-à-dire le garage un peu rugueux américain. Mais c'est un groupe français que moi j'ai découvert assez récemment. Alors, tous les fans de yéyé, de pop ou d'obscurité un peu barrée connaissaient sans doute depuis longtemps. Je crois qu'ils apparaissaient dans une des compiles Wiz aussi. Il faut dire que Wiz a beaucoup fait quand même pour faire la série de compiles Wiz de Pornbad, du label parisien Pornbad, a beaucoup fait pour nous faire redécouvrir ces groupes 60s complètement barrés français. C'était le Ben Dis Donc. Le Ben Dis Donc, Ben B-A-I-N, plus loin Dis Donc, D-I-D-O-N-C, qui ont sorti un EP en 66. A priori, rien d'autre. En tout cas, il n'y a que ça sur Discog. 4 titres. Et ce qui est sûr, c'est que ce groupe-là, on aurait quand même pu les passer. Notamment, peut-être pas le morceau T'as raison, mais à la limite, le morceau Acheter notre disque, qui est quand même très drôle. Marcel, je m'en souviens plus, je sais plus trop à quoi ça ressemble. Par contre, 4 cheveux dans le vent, alors ça, c'est carrément du pur garage, quoi, vous allez voir. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'aurait jamais passé le groupe dans lequel 3 des Ben Dis Donc se sont retrouvés, puisque 3 d'entre eux se sont retrouvés dans Il était une fois, quelques temps plus tard, et notamment le batteur-chanteur, là. Je ne sais plus comment il s'appelait. Richard DeWitt, oui, c'était lui le batteur-chanteur de Il était une fois, avec 2 de ses acolytes, et 2 des membres des Ben Dis Donc, qui c'était 5 au départ. Et ben, il y en a 3 qui sont retrouvés dans Il était une fois. Voilà. Donc, c'était très différent de Il était une fois, il faut bien l'avouer. Et donc on s'écoute ce morceau, 4 cheveux dans le vent, de l'unique EP du Ben Dis Donc, sorti en 66. Et ma foi, vous mettez des paroles en anglais et vous retrouvez ça sur un Back from the Grave et personne ne sera choqué.
Devant une fille née, il me faut des lunettes pour voir à quelques mètres. Je ne distingue rien au petit matin. Tout le monde me dit que c'est à cause de mes cheveux.
Je me sens bien mieux. Il se sent bien mieux.
dis donc, avec donc trois futurs. Il était une fois, c'était en 66, mais c'est leur nuit que paie quatre titres, avec le morceau Quatre cheveux dans le vent. C'était leur rubrique Digit. Et bien là, pour faire contraste, nous allons nous écouter du Beethoven. Absolument, la sonate pour piano numéro 8, l'ouverture du deuxième mouvement. Ouvrez bien les oreilles parce que c'est rare quand même, hein, Beethoven dans Les bébés dinosaures. J'espère que vous avez bien retenu cette petite mélodie qui n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, si j'ose dire, puisqu'elle a été tranquillement repompée allègrement et sans aucun scrupule dans un morceau de 1976 par un groupe que je vous laisse reconnaître. Évidemment, quelques modifications, mais l'emprunt est, comment dire, assez évident. Écoutez-moi ça.
You're sitting in your seat, and then you stand and clutch your breast. Our music drives you wild along with the rest. You watch me singing the song. You see what my mouth can do. What my fingers can do, and you wish you were the one I was doing it to.
Expectations, c'était un morceau de Kiss, bien sûr, sur l'album Destroyer en 76, donc, dont l'intro, la mélodie, une partie du refrain est pompée sur Beethoven, qui l'eût cru. Alors, c'est pas les Kiss qui ont eu cette idée, hein, c'est évidemment, c'était un coup du producteur Bob Ezrin. Quand ils sont arrivés en studio, apparemment, ils avaient fait des maquettes déjà, enfin, des. Oui, ils avaient enregistré des. Les morceaux qu'ils avaient prévus donc de mettre au propre en studio. Et Bob Ezrin a écouté tout ça, il en a jeté la moitié. Et non, on va tout recommencer. Et il est parti dans une de ses productions les plus flamboyantes. Là, il aura rajouté des cordes, des machins, des bruitages. Il leur a fait écrire des morceaux directement en studio. Il a repris certaines de leurs idées, il a bidouillé des morceaux ensemble en mélangeant deux morceaux pour en faire un. Enfin bref, il a fait un peu ce qu'il voulait. Ça n'a pas trop plu, par exemple Ace Frehley, enfin c'est un peu le même truc que les Ramones avec Phil Spector, quoi. La Bob Ezrin à cette époque-là avait l'air d'être assez tyrannique, on va dire. Et puis surtout, les Kiss, ils étaient bruts de décoffrage, ils arrivaient, ils savaient pas trop, ils connaissaient pas trop grand chose à la production. C'était pas des grands musiciens non plus, enfin, pour les standards, disons, du hard rock de l'époque, hein, à part Ace Frehley peut-être. Et donc. Ça les a un peu secoués, mais Paul Stanley et Gene Simmons sont beaucoup appréciés, les deux autres beaucoup moins, semble-t-il. Et ça donne un album, alors un peu pompier, mais enfin quand même très barré, où donc ils ont repompé du Beethoven. Comme quoi on peut être fan de Kiss depuis 1979, et en apprendre encore, parce que ça je le savais pas. Ouais, il suffit de chercher, hein, vous me direz. Hein, au bout de 30 ans, on arrête de chercher, et puis du coup, on découvre des trucs incroyables. Bref, on a parlé tout à l'heure de Destroyer, c'est l'album sur lequel aussi figurait Do You Love Me, ce morceau auquel a collaboré Bob Ezrin. Et Kim Foley aussi. Un des fils rouges de notre émission de ce soir. Bon, là, on va changer de registre. On a eu Cheech and Chong, nos amis, notre duo de comiques, qui faisait du stand-up et des disques autour de vannes et de sketchs qui parlent essentiellement de drogue et plus particulièrement de marijuana, faut bien l'avouer. Et bien on va s'écouter un autre apôtre de la marijuana, David Peel bien sûr, qui a enregistré au moins, je sais pas, 15 titres avec marijuana dans le nom du morceau. Alors celui-là, ça aurait été une ressucée d'un autre marijuana plus ancien. Il était enregistré en 78, mais attention, c'était sa période punk. C'est l'album King of Punk, enregistré avec le groupe Death, dont on ne sait. J'arrive toujours pas à savoir qui étaient exactement les musiciens en question. Alors, je pense pas que ce soit le groupe Death de Détroit, groupe des années 70. Là, j'imagine que c'est un groupe qu'il avait monté pour l'occasion, mais aucune idée de qui jouait avec lui. En tout cas, ça dépote. Hein. Et donc, c'est Marijuana avec. Un son un peu plus musclé que les premiers albums, plus folk, barré, disons, de David Peel. En 78, l'album King of Punk et le morceau Marijuana. 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 Yesterday I went to the butcher for a dough, looking for a nickel bag of marijuana smoke. Waited to arrest me, wires up on the mind. A sneaky knocking bomber busting me up on a crime. Marijuana, marijuana, marijuana.
read the New York Times and the Daily News, looking for something to conquer my blues. Then I read an article in the Village Voice, the daily knocking 501's the addict's new choice. Mama Wanda, Mama Wanda, Mama Wanda, Mama Wanda. You get the knocking farmer, then you chain them out to grass. Then you put them in your ghetto with the lower class. After 10 years of getting him stoned, tell everybody what to push your hands down. Mama Wanda, Mama Wanda, Mama Wanda, Mama Wanda. Take a trip by the marijuana pill. You want to be a pothead and always get stoned. Smoke some marijuana, then turn everybody on. Marijuana, 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 marijuana.
Ah bah, je savais pas que la marijuana ça pouvait faire un effet pareil. Eh ben, on va s'écouter maintenant quelqu'un qui va se présenter lui-même.
Right. Nobody's ready. Can't see him. Anyway, we'll take a chance. Ladies and gentlemen, we'd like to present to you Screaming Lord
Thank you.
Such, le fameux album Lord Such and Heavy Friends, où là aussi il y avait une espèce de super groupe totalement incroyable. Keith Moon, Richie Blackmore, Noel Redding, Matthew Fisher, etc., etc. Qui ont tous plus ou moins renié d'ailleurs le disque en disant que les sessions étaient totalement bordéliques. Et effectivement, alors il y a quand même, je dois reconnaître, quelques solos. Alors, totalement déjanté, il y en avait un déjà dans ce morceau là, de Richie Blackmore. Là, il s'était bien déchaîné sur certains morceaux, ça part dans tous les sens. Mais sinon, c'est essentiellement des reprises. Là, ce morceau était signé Lord Such, mais bon, là, c'était un peu un hommage à Cab Calloway. Puis il y a du Rollover Beethoven, une reprise de Little Richard, etc. Bon, c'est un album un peu anecdotique, sauf pour ceux qui sont fans de Richie Blackmore, peut-être, parce que sa participation est quand même marquante. Mais bon, c'est loin d'être le meilleur album de Screaming Lord Such. Il est un peu dans la panade là, dans ce début des années 70, c'était en 71. Il y a aussi Carl Little qui participe, qui était, semble-t-il, le premier batteur qui avait été batteur de Screaming Lord Such à ses débuts, et qui est un de ceux qui ont appris plus ou moins la batterie à Keith Moon, quoi, ou en tout cas fortement inspiré Keith Moon, d'après la légende. Voilà. Nick Simpler aussi était là à la basse, enfin bref. Un super groupe pour un résultat marrant, mais sans plus, on va dire. On l'avait promis tout à l'heure, une petite reprise de Do You Love Me. Alors pas celle de Girls School, pas celle de Nirvana, celle de Electric Six, le groupe de Detroit, qui a sorti en 2015 un double album, double CD, appelé Mimicry and Memories, avec un CD de rareté, de trucs sortis des archives, et un autre de reprise, donc celui qui s'appelle Mimicry, avec des reprises étonnantes, soit choisies par des fans, ou proposées par des fans. Sur leur site internet, il y avait tout un truc là où les fans pouvaient intervenir, soit choisis par les membres du groupe. Et là, c'est un des membres du groupe, je ne sais plus lequel, qui a choisi de reprendre Do You Love Me de Kiss, donc. Et ils ont fait une version relativement fidèle et tout à fait percutante, ma foi. Electric Six, donc. Je rappelle que c'était eux qui avaient créé le tube Gay Bar. C'était un des groupes de cette scène de Détroit des années, disons, fin 90-2000, quoi. Les années 2000, on va dire. C'était l'apogée de la scène de Détroit. Mais ils sont toujours plus ou moins actifs, je crois. Enfin, je les ai perdus de vue, à vrai dire, les Electric Six. Mais ils étaient encore là il y a quelques années, je suppose qu'ils tournent encore. Ils ont un gros following en Grande-Bretagne, paraît-il, notamment. Ils ont eu un certain succès. Ils sont sur un label beaucoup plus gros maintenant qu'à leur début, bien sûr. Donc Electric Six. Et surtout, ils sortent beaucoup de disques par le biais de leur fan club, en fait. C'est-à-dire des disques qui ne sont pas dans le commerce. C'est le cas de celui-là. Hein. Mais qui sont réservés aux fans, qui font des souscriptions quoi, pour pouvoir enregistrer et réserver des disques aux fans qui ont participé à la souscription. Donc ils ont quand même un bon following. Electric Six, donc en 2015, reprenant Kiss.
You really like my limousine. You like the way the wheels roll. You like my 7-inch leather heels and going to all of the shows. But do you love me? Do you love me? Do you love me? Really love me? Credit cards and private planes.
Do You Love Me de Kiss, repris par Electric Six en 2015. Et sans le jingle, parce que je suis un peu à la bourre, on va s'écouter la rubrique fromage de chèvre. Donc pour conclure cette émission, je vous rappelle que les bébés dinosaures, c'est sur Canal Sud 92.2. C'est tous les dimanches de 21h30 à 23h. La semaine prochaine, on se retrouvera avec Tommy Boy. Ce sera le comeback du duo maudit des bébés dinos. Et en attendant, vous pouvez réécouter les bébés dinosaures. Il y a une rediffusion le lundi de 15h, je sais plus, 15h30 à 17h sur Canal Sud 92.2. Vous pouvez aller aussi sur le site de Canal Sud, canalsud.net, où il y a plusieurs centaines d'émissions des bébés dinosaures écoutées en streaming. Et vous pouvez aller aussi sur le Facebook des bébés dinos, où vous avez pareil des émissions à réécouter, à télécharger. Avec les programmations quand même sur lesquelles il vaut mieux jeter un coup d'œil au cas où, hein, parce que parfois c'est un peu bizarre. En attendant, donc, ce sera notre petite rubrique folk ce soir avec Julius Bocarn, l'album Le Vélo Volant en 79 et le morceau Soisig. Et c'est là-dessus qu'on se quitte et je vous dis à la semaine prochaine.
Soisig, c'est un prénom de femme. Soisig, c'est un prénom breton. Au cœur des forêts, la prairie, et tout au bord, une maison. Deux enfants telés qui gambadent, deux enfants bleus, deux enfants blancs. La reine de ce paysage, c'est toi comme dans les chansons. Est-ce la forêt qui t'habille, ou toi qui habilles les bourgeons? Tu es entré dans ma légende, un beau soir au bout des chansons. Un rayon de soleil s'égare, parfois tout au fond d'un regard. Et s'il arrive qu'on le croise, la pluie d'étoiles éclaire le noir. Je cherchais une magicienne, une fée en ce monde étroit, où l'on écrase le cœur même, comme de la boue sous les pas. Ô belle assise à la fontaine, j'ai soif d'un peu de ton eau. Je suis le voyageur en peine, j'ai soif d'amour bien plus que d'eau. C'est au bout d'un chemin de boue, comme dans les contes anciens, que la fée secrète se trouve, déguisée en chèvre ou en chien. D'un coup de baguette magique, l'enchanteur enchanté Merlin a fait de la bête une femme. Le conte ne va pas plus loin. J'aimerais écrire un chapitre en ce beau livre enluminé. Vais-je avec ma tête de pitre avoir la grâce d'être aimé? Mais le soleil est dans mon âme, il va réchauffer pour un temps mes Sibéries intérieures que rien ne réchauffait vraiment. Soisig, c'est un prénom de femme. Soisig, c'est un prénom breton. Come back. I want him to come back.